France Inter.
Journal Christelle Rebière, bonjour.
Bonjour à tous. Maigrir à tout prix, méfiez-vous des chirurgies de l'estomac. À l'occasion de la journée mondiale de l'obésité, la Haute Autorité de Santé alerte. Opération escargot et autres blocages, ce ne sont pas les agriculteurs mais les taxis cette fois. Ils veulent de meilleurs tarifs pour les transports de patients. Dans ce journal aussi, la carte jeune de Jordan Bardella. Ils étaient nombreux hier à suivre le premier meeting de campagne du candidat RN aux européennes.
Et pour lui répondre au micro de Sonia De Villers à 7h50, c'est donc aujourd'hui la tête de liste Renaissance aux européennes, Valérie Ayé.
Les États-Unis à la veille du Super Tuesday, le rendez-vous des primaires dans les deux camps. Et puis Paris à tout prix. Les jeunes migrants qui rêvent de la France sont de plus en plus nombreux dans la capitale. Le nombre global de sans-abri a bondi de 17% par rapport à l'an dernier.
France Inter.
1 milliard de personnes obèses dans le monde, un fléau qui a quadruplé chez les enfants et doublé parmi les adultes entre 1990 et 2022, d'après l'estimation publiée dans la revue The Lancet. En France, près d'une personne sur deux est en surpoids. Alors on parle beaucoup en ce moment des nouveaux traitements contre l'obésité sur lesquels on n'a pas encore assez de recul. Mais la Haute Autorité de Santé s'inquiète, elle, de l'augmentation du nombre de chirurgies bariatriques sur l'estomac, des chirurgies pas toujours adaptées, Victor Dolande, et qui manque souvent d'accompagnement.
Ces chirurgies qui consistent à réduire la taille de l'estomac ont explosé ces dernières années. Leur nombre a été multiplié par 20 depuis 1997. Aurélie Quillet est psychologue et patiente experte à la Ligue nationale contre l'obésité. Elle a reçu plus de 1000 malades en consultation avec parfois des séquelles importantes.
C'est vraiment des patients qui ont été charcutés. J'en ai vu qu'il y avait des cicatrices de haut en bas, c'est-à-dire de la base du cou jusqu'au pubis. On les a ouverts en deux pour une chirurgie bariatrique parce qu'elle s'est mal passée.
Elle a aussi vu d'autres patients qui ne rentraient pas dans les critères pour se faire opérer. Des chirurgiens peu scrupuleux leur demandaient alors de prendre du poids avant l'opération. Mais le plus souvent, c'est le manque de suivi qui l'inquiète.
Un patient sur deux, en fait, on ne les voit plus après 2 ans de suivi chirurgical. C'est un parcours du combattant pour le patient. Et si effectivement ce suivi n'est pas bien fait après sur le long terme, eh bien on a des personnes qui reprennent du poids. Donc ce n'est pas que psychologique ou social, mais il y a aussi des conséquences physiques. Attention, il faut apporter information aux patients qu'il y a la nécessité d'un suivi à très long terme.
Pour un meilleur accompagnement avant et après ces chirurgies bariatriques, il faut privilégier une consultation dans l'un des 40 centres spécialisés de l'obésité.
Victor Dolande, ce 4 mars 2024 restera dans l'histoire. La France va devenir le premier pays du monde à inscrire l'IVG dans sa constitution avec cette phrase « La loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une interruption volontaire de grossesse. L'adoption à majorité des 3/5 du Parlement réuni en congrès à Versailles cet après-midi ne fait pas de doute. Les sages-femmes peuvent aussi pratiquer les avortements depuis quelques temps, mais le gouvernement va devoir réécrire son décret concernant ce que l'on appelle les IVG instrumentales. Le texte avait suscité la colère d'une partie de la profession parce qu'il requérait la présence obligatoire d'un médecin spécialisé, ce qui le rendait inapplicable dans les déserts médicaux.
Il est 7h33, à peine les blocages des agriculteurs levée que voici ceux des taxis.
L'intersyndicale mobilise une nouvelle fois, toujours contre les nouveaux tarifs de l'assurance maladie sur les transports de patients. Une opération escargot sur le périphérique intérieur parisien à partir de 8h. Des taxis venant de la région Grand Est, de l'Ouest, du Loiret doivent se joindre au mouvement. Les taxis réclament une renégociation, Thomas Giraudot.
Faute d'accord trouvé entre les fédérations de taxis et l'assurance maladie l'automne dernier, la CNAM a unilatéralement appliqué une nouvelle convention. Elle augmente cette année d'environ 3,5% les tarifs des courses pour amener un patient à l'hôpital ou chez le médecin. Des courses remboursées, voire directement payées par la Sécu. Plus 3,5%, c'est loin de compenser l'inflation, explique la présidente de la Fédération nationale du taxi, Emmanuelle Cordier.
Avec tous les jeux des remises, au final, ça revient à zéro, l'augmentation, avec ce qu'ils nous demandent de faire. Qu'on fasse des remise, ça peut s'entendre. C'est normal, il faut faire un effort. Mais Bercy estime que nos charges ont bien évolué de 5,4% en un an. Le moindre refus d'augmentation de nos tarifs va mettre en péril des centaines d'entreprises.
Les chauffeurs ont le sentiment que face à l'augmentation des dépenses de santé, l'assurance maladie cherche à faire des économies sur leur dos. Les transports médicaux ont coûté près de 5,5 milliards d'euros à la Sécu en 2022. Les syndicats de taxi réclament une table ronde avec le Premier ministre Gabriel Attal et les ministres concernés économie, transport et santé.
santé.
À noter qu'à Toulouse, les taxis entendent paralyser l'aéroport de Blagnac et filtrer les péages. Les taxis marseillais, eux, rejoindront leurs collègues du côté de Nîmes. Le salon de l'agriculture a remballé. Il a attiré 603 000 visiteurs, en légère baisse de 2% par rapport à l'année dernière. Mais les organisateurs craignaient le pire avant l'ouverture chaotique du salon. Le Rassemblement national, qu'on a beaucoup vu au salon, occupe toujours le terrain. Jordan Bardella a lancé sa campagne des européennes à Marseille hier devant plus de 5000 personnes. La France revient, l'Europe revit. Un slogan en forme de clin d'œil au « America is back » de Ronald Reagan dans les années 80 pour mieux dénoncer l'effacement de la France. Et sa campagne très active sur les réseaux sociaux semble porter ses fruits auprès des jeunes, Laurence Perron, des jeunes venus nombreux.
TikTok, Instagram, beaucoup comme Simon ont été avertis du meeting par les réseaux sociaux.
On sent de plus en plus qu'il y a plus de hype, on va dire, autour de la droite, surtout au niveau des jeunes.
Vous dites la droite, pas l'extrême droite?
Non, pas l'extrême droite, la droite.
Léni et Mathias, 17 ans, viennent de vivre leur premier meeting politique. Ils valident le discours identitaire du candidat qui s'en est pris à la submersion migratoire.
Nous, on le voit tous les jours, l'immigration, les problèmes que ça engendre, etc.
La sécurité beaucoup augmenté maintenant. De plus en plus je grandis, plus j'ai peur, je dois faire plus attention sur Marseille le soir et tout.
Élu municipal d'une petite ville de l'Hérault, Gilles Parmentier observe un changement dans la sociologie des meetings.
Ça fait très très longtemps, voire peut-être jamais, d'avoir vu autant de jeunes. Ça, c'est vraiment un bon signe, puisque les jeunes sont ceux qui votent le moins. C'est très très positif et encourageant.
Alors, je suis commercial automobile.
Aurélie, 31 ans.
Il a raison, effectivement, l'électrique, mais c'est une vaste fumisterie, clairement. Ce qui est magique aussi, c'est qu'ils nous ont dit d'acheter de l'électrique, là où il y a une augmentation de 15% de l'électricité.
Un jeune député du RN, un peu superstitieux, confie « Il ne faudrait pas qu'on croie la partie gagnée trop tôt ». Il reste encore près de 100 jours.
Et la tête de liste du Parti Renaissance, Valérie Ayer, sera l'invitée de Sonia De Villers dans un quart d'heure. Aux États-Unis, Donald Trump espère plier le match demain contre Nikki Haley lors du Super Tuesday. Les électeurs des deux camps voteront dans 15 États et un territoire. C'est un moment crucial dans le calendrier des primaires. Ce sera le cas notamment dans le Colorado, qui avait pourtant demandé à retirer le nom de Trump des bulletins de vote à cause de l'assaut du Capitole. Mais la Cour suprême n'a rien décidé. L'envoyé spécial de France Inter dans le Colorado, Sébastien Paour est allé voir une ancienne élue républicaine de 91 ans à Denver, celle justement qui était à l'origine de cette plainte.
Norma Anderson est une figure du parti républicain local, élue respectée pendant 20 ans jusqu'en 2006, première femme, leader de la majorité dans les deux chambres du Colorado. Quand on lui a proposé d'être la plaignante principale de cette démarche contre l'ancien président, elle n'a pas hésité, elle a repensé au 6 janvier.
On n'envahit pas le Capitole. Désolé, vous êtes un insurrectionniste si vous faites ça. Et vous ne pouvez pas vous présenter aux élections. Donald Trump ne mérite pas d'être président des États-Unis parce qu'il ne défend pas notre démocratie.
Elle se fonde sur la Constitution des États-Unis, dont elle garde toujours un exemplaire dans son sac à main, avec une page cornée.
14e amendement, article 3.
Il prévoit que ceux qui se sont livrés à des actes de rébellion après avoir prêté serment sont exclus des plus hautes fonctions publiques, comme Trump avec ses partisans au Capitole. Peu de chance que la Cour suprême soit du même avis, le milliardaire pourrait donc revenir à la Maison-Blanche, et cela fait très peur à Norma Anderson.
Si Donald Trump gagne, notre démocratie est perdue. Il est une menace pour la démocratie. C'est effrayant.
L'ancienne élue à l'esprit vif et à la poignée de main ferme assure qu'elle n'a jamais voté Trump et qu'elle ne le fera pas non plus en novembre à la présidentielle. Lakewood, Colorado, Sébastien Paour, France Inter.
Un cessez-le-feu immédiat à Gaza pour au moins 6 semaines, c'est ce que réclame la vice-présidente américaine Kamala Harris, qui s'impatiente. Il n'y a pas d'excuse, dit-elle. Elle doit recevoir aujourd'hui le très influent membre du cabinet de guerre israélien Benny Gantz. Les négociations ont par ailleurs repris hier au Caire. En France, vitesse excessive, freinage trop tardif. C'était le 14 novembre 2015. Un TGV qui effectuait un test sur la ligne reliant la Meuse à Strasbourg avait déraillé dans un virage à Eckversheim, faisant 11 morts et 42 blessés. Le procès de cet accident s'ouvre tout à l'heure devant le tribunal correctionnel de Paris pour 2 mois, avec 6 prévenus, dont 3 cadres chargés de piloter le TGV ce jour-là. L'instruction avait relevé un enchaînement d'impôts d'imprudence, de négligence et de manquement aux obligations de sécurité. On y reviendra dans le journal de 8h.
Il est 7h39, toujours plus de sans-abri à Paris.
Leur nombre a augmenté de 17% par rapport à l'an dernier, d'après les chiffres de la Nuit de la Solidarité, et ce malgré l'ouverture de nombreux lieux d'hébergement supplémentaires, notamment des gymnases pour les plus jeunes. Et ces mineurs non accompagnés seraient de plus en plus nombreux, entre 4 et 500 à vivre sous détente, notamment sur les quais de Seine. Faustine Calmel est allée à leur rencontre.
Sous chaque pont, le même décor, des dizaines de tentes alignées, recouvertes de couvertures de survie qui claquent au vent d'hiver. Faudé sort de l'une d'elles.
Ça fait un mois et demi, je dors ici, tu vois.
Venu de Guinée-Conakry, le jeune homme de 17 ans entr'ouvre sa toile de tente, quelques habits, une bouteille d'eau. Il se plaint du froid, de l'humidité, de l'absence de perspective aussi, lui qui voudrait travailler dans le bâtiment. À quelques mètres, d'autres jeunes jouent avec les cygnes, l'eau affleure. Certains ont dû évacuer les lieux la veille. Énième déménagement, raconte Ismaël, qui a quitté de force le pont Marie pour celui de Sully.
La police nous a dit de quitter là-bas, on les a dit, non, on ne sait pas là où aller. Il y a suffisamment de la place. Moi, je vais dire même que c'est de la méchanceté. Parce que tu es tout le temps dans la rue, tu ne sais pas là où y aller, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire. Moi, je ne vais pas tellement l'en vouloir la France parce que nous sommes déjà chez eux. Mais n'a qu'à essayer de voir la situation. Ce que nous rencontrons en ce moment, c'est très très difficile. J'aimerais étudier, faire quelques formations, je vais vraiment m'intégrer.
Avec au bout du rêve, un travail et un toit autre que cette tente au bord de l'eau.
Reportage Faustine Calmel. Un épisode méditerranéen a eu raison de la fin du carnaval de Nice. Hier, les festivités ont dû être annulées. Il est tombé jusqu'à 150 mm de pluie dans les Alpes-Maritimes avec des rafales à près de 90 km/h. Le maire Christian Estrosi demande la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Décidément, il décoiffe. On parle de sport cette fois. Antoine Dupont et ses coéquipiers ont remporté le tournoi du circuit mondial de Los Angeles en écrasant l'Angleterre 21-0. L'emblématique capitaine du 15 de France déploie ses talents en rugby à 7. Je suis en apprentissage, dit-il, c'est prometteur pour les Jeux. Lui, c'est un habitué de la première place, mais alors cette fois, il aura fait 3e de l'ultime challenge. Le navigateur Armel Lecléache a bouclé son tour du monde à Brest sur son maxi trimaran en 56 jours et 8 heures, soit près d'une semaine après le vainqueur Charles Caudrelier. Cette course a été compliquée pour moi, a-t-il reconnu. Il a enchaîné les avaries sur son bateau volant.
Christelle Rebière, merci. À suivre, Yael Goes, Dominique Seux.